Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux et nos invités pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une, ce lundi, les réactions nombreuses après ce qui s'apparente à une nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump. Le FBI enquête, Joe Biden et Kamala Harris se disent soulagés que le candidat républicain soit sain et sauf. Le président américain ajoute que tous les moyens nécessaires seront accordés à sa sécurité et il précise il n'y a pas de place pour la violence politique aux États-Unis. Nous en parlerons avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Avant cela, nous reviendrons sur la démission de Thierry Breton en lice pour un second mandat de commissaire chargé du marché de l'intérieur. Le Français s'estime désavoué par la présidente de la commission, Ursula von der Leyen. Nous appellerons notre correspondant à Bruxelles à 11h30, temps universel. Au moins 11 morts, des milliers de déplacés, c'est le bilan provisoire toujours de la tempête Boris. Elle a provoqué ces derniers jours de graves inondations en Europe centrale et notamment en Pologne.
On ne s'attendait pas à ce que ce soit si terrible. On a appelé les pompiers pour qu'ils viennent pomper l'eau, mais ils nous ont répondu que toute la ville avait besoin d'être aidée, comme nous. Tout est déjà inondé. Il va continuer de pleuvoir aujourd'hui et demain, et ça va venir s'ajouter à tout ça.
Reportage de notre correspondant en Pologne dans une demi-heure. Dans quelques minutes, nous verrons avec notre invité ce que peut changer le procès de Mazan, s'il peut changer quelque chose dans la prise en charge des victimes de viol, dans la vision même des violeurs et de la domination masculine en France. Et puis, autre procès qualifié par la presse britannique de procès du siècle, Manchester City contre la Première Ligue. On vous dit tout dans le journal des sports, à midi et quart temps universel. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et pour commencer, comme chaque jour, le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec cette nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump.
Oui, pour la deuxième fois en deux mois, il a, selon le FBI, échappé à une tentative d'assassinat, cette fois chez lui, en Floride, sur le parcours de son terrain de golf. Le FBI a annoncé l'arrestation d'un homme armé qu'il aurait pris pour cible. Le candidat républicain à la présidentielle est sain et sauf. Au mois de juillet, il avait survécu par miracle à un tir qu'il avait blessé à l'oreille. C'était lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie. Les deux épisodes ne sont toutefois pas à mettre sur le même plan, selon un spécialiste des États-Unis, Lorik Enton.
Je vois ça beaucoup moins comme un problème de sécurité que l'incident
de ce qui s'est passé en Pennsylvanie, oui.
De Pennsylvanie, parce que là, il y avait le problème principal, c'était le manque de communication et de coordination entre la police locale et le Secret Service. Là, il y avait que le Secret Service qui a ensuite déclenché l'alerte et donc la police locale a pu intercepter le suspect grâce à sa plaque d'immatriculation, ouais, qui a été prise en photo par un témoin donc extérieur aux forces de sécurité. Donc là, ça a plutôt bien marché. Il n'y a pas eu de tentative d'assassinat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tir et le suspect a été arrêté sans faire d'histoire assez rapidement. Donc cette fois-ci, il y a eu une volonté de tirer sur Trump, mais ça a été enrayé.
Lorik Enton, interrogé par Nathalie Amar dans RFI Matin. Et puis parmi les réactions, vous le disiez, celle de Joe Biden et de Kamala Harris, le président et la vice-présidente des États-Unis se sont dit soulagés que leur adversaire soit sain et sauf.
Le Français Thierry Breton démissionne de son poste de commissaire européen.
Oui, il a annoncé ce matin avec fracas qu'il ne siégerait pas dans la future commission car il n'est plus en mesure d'assurer son poste au marché intérieur. La composition de la future commission n'a pas encore été présentée, mais depuis des mois, la mésentente entre Thierry Breton et la présidente Ursula von der Leyen était de plus en plus visible. Ursula von der Leyen qui a fait savoir par la voix de son porte-parole qu'elle acceptait cette démission et qu'elle remerciait Thierry Breton pour son travail. De son côté, après cette démission fracassante, Emmanuel Macron a proposé Stéphane Séjourné, son ministre démissionnaire des Affaires étrangères, comme commissaire européen.
L'Allemagne donne un tour de vis à sa politique migratoire.
C'est aujourd'hui que Berlin commence à rétablir pendant 6 mois des contrôles de police à l'ensemble de ses frontières au nom de la lutte contre l'immigration illégale. Des contrôles avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark vont ainsi s'ajouter à ceux déjà en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Pour ce qui est de la France, 14 points de passage sont concernés en Moselle et en Alsace. À quelle ville allemande frontalière située près de Strasbourg, l'entrée en vigueur de la mesure ne change pas vraiment le quotidien. Écoutez le reportage de Véloène Munoz-Boileau.
Au bout du pont de l'Europe qui relie Strasbourg à Kiel, une dizaine de policiers postés au bord de la route scrutent attentivement les véhicules et leurs passagers. Mais les contrôles ne sont pas systématiques, comme l'explique Dieter Huth, porte-parole de la police allemande.
On n'arrête pas chaque voiture ni chaque personne qui traverse la frontière. On procède à des contrôles ciblés et on fait en sorte de ne pas entraver le passage des travailleurs frontaliers en évitant de créer des bouchons.
Ce sont surtout les bus et cars de tourisme qui sont visés, car c'est le moyen de transport privilégié par les personnes qui cherchent à entrer illégalement en Allemagne. Malgré le retard qu'ils occasionnent, ces contrôles sont une bonne chose, selon cette passagère d'un Flixbus qui habite en Allemagne mais séjourne régulièrement en France.
Il faut quelque chose comme ça, parce que les bandits, ils sont partout, hein.
Des effectifs sont également déployés en gare de Kiel et dans le tram en provenance de Strasbourg. En uniforme mais aussi en civil, les policiers opèrent jusqu'à 30 km après la frontière. Mais cet habitant de Kiel doute de l'efficacité de la mesure, rappelant que des contrôles renforcés ont été mis en place dès le mois de juin pour l'Euro de foot et les JO de Paris, ce qui n'a pas empêché les récents attentats en Allemagne.
Ce sont les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne qu'il faut renforcer, pas celles avec nos voisins.
Le renforcement des contrôles aux frontières entre la France et l'Allemagne est en vigueur pour une durée d'au moins 6 mois renouvelable. Miloen Munoz-Boileau, de retour de Kiel, RFI.
Et Berlin a justifié sa décision en invoquant, je cite, « la protection de la sécurité intérieure contre les menaces du terrorisme islamiste et de la criminalité transfrontalière ».
L'Europe centrale compte les morts après le passage de la tempête Boris.
Après 6 décès recensés en Roumanie ce week-end, un en Pologne et un en Autriche, celle-ci a annoncé ce matin 2 nouvelles victimes, des hommes âgés de 70 et 80 ans. Le sud-ouest de la Pologne a dû faire face la nuit dernière à de nouvelles pluies violentes dans lesquelles 2 personnes supplémentaires ont perdu la vie. Les inondations atteignent par endroits 8 mètres de hauteur et certaines localités sont toujours coupées du monde. Correspondance d'Adrien Sarlat.
Après la vague de violentes précipitations qui a secoué la région cette nuit et fait 2 victimes supplémentaires en Pologne, il semblerait que le pire soit derrière nous. La pluie a cessé de tomber ici à Wałbrzych et par chance le centre-ville n'a pas subi de dégâts majeurs, outre quelques inondations ici et là. En revanche, les hameaux aux alentours ont été submergés et ont dû être évacués, parfois même par hélicoptère. Même si la dépression a quitté le ciel, l'heure est toujours aux opérations de sauvetage dans le sud-ouest de la Pologne. Les pompiers et l'armée peuvent compter sur l'aide des sauveteurs ukrainiens et allemands envoyés en renfort cette nuit. Mais la situation reste incertaine pour la capitale régionale, Wrocław, jusqu'alors épargnée par les eaux. Elle pourrait en effet être inondée avec un effet de retard demain, voire mercredi, selon les experts, à cause des décrues dans les villages aux alentours qui pourraient nourrir le fleuve qui la traverse jusqu'à débordement. Le Conseil des ministres vient de déclarer l'état de catastrophe naturelle dans les zones inondées, pour une période pouvant aller jusqu'à 30 jours. Adrien Sarlat, Wałbrzych, RFI.
Il y a 2 ans commençait pour les femmes iraniennes le mouvement Femmes, Vie, Liberté.
Oui, Mahsa Amini, jeune kurde iranienne, avait été arrêtée il y a 2 ans pour port incorrect du voile islamique et transférée à l'hôpital. Sa mort était annoncée quelques jours après. L'indignation devant la mort de la jeune femme s'est transformée en révolte nationale face à la mainmise des autorités sur la société. Femmes, Vie, Liberté. Depuis, le régime iranien n'a eu de cesse de réprimer ce mouvement dans la violence sans réussir à le faire. Une 30aine de femmes incarcérées dans la prison d'Evin en Iran ont entamé une grève de la faim en hommage à Mahsa Amini. De nombreuses manifestations ont lieu à travers le monde. Qu'en est-il au Kurdistan iranien où vit la famille de la jeune femme? Écoutez la réponse de Kririn Ardakani, c'est l'avocate de la famille de la prix Nobel de la paix Narges Mohammadi.
À l'heure où je vous parle, le Kurdistan iranien, qui est la région originaire de Mahsa Amini, qui est née à Sarrez, est mobilisé. Les commerces sont fermés quasiment dans leur intégralité depuis hier en protestation et pour commémorer la mort de Jina Mahsa Amini. Il faut savoir aussi que le pouvoir va venir même dans le deuil des familles les molester, puisque les parents de Jina Mahsa Amini ont été interdits hier de se rendre sur la tombe de leur fille et que le pouvoir redoute un regain de contestation et surtout la grande marche des citoyens de Sarrez qui en solidarité seraient tentés d'aller se recueillir aujourd'hui à une date symbolique sur la tombe de Jina Mahsa Amini. Donc la rue est véritablement militarisée, il y a des hélicoptères partout à Sarrez pour éviter les mouvements de foule.
L'avocate Kririn Ardakani a coécrit le livre collectif des Iraniennes Femmes, Vie, Liberté, livre paru aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Bonne journée sur RFI, tout de suite avec Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. RFI Midi, on va parler de l'actualité en France durant les 20 prochaines minutes.
RFI. La France à midi.
Le procès de Mazan a repris ce matin, une nouvelle fois sans le principal accusé, Dominique Pellicot. Malade, il va subir une expertise médicale. Il est attendu, très attendu, pour répondre aux questions des juges. Lui qui a drogué sa femme pendant 10 ans pour la soumettre au viol d'autres hommes qu'il recrutait sur Internet et dont une cinquantaine sont aussi jugés en ce moment. Elle est là et elle l'a dit, elle veut qu'on la voie, qu'on entende ce qui s'est passé. Et ce matin à l'audience, elle a commencé par s'adresser aux milliers de personnes qui ont manifesté samedi dans plusieurs villes de France pour la soutenir.
Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier à travers toute la France. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls.
Gisèle Pellicot, elle parle de sa responsabilité. C'est déjà ce qu'elle avait laissé entendre en refusant que ce procès se tienne à huis clos. Les faits qui sont jugés ont choqué tout un pays. La presse du monde entier a les yeux sur le tribunal en ce moment. Alors, ce procès peut-il changer quelque chose? On va poser la question à notre invitée, maître Nathalie Tomasini. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avocate, spécialiste des cas de violence conjugale et de harcèlement. On vient d'entendre Gisèle Pellicot. C'est elle qui a choisi que les audiences soient publiques. Elle, la victime. C'est une décision inédite ou c'était déjà arrivé auparavant?
Non, ça peut arriver. Simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce procès a lieu devant une cour criminelle, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de juré. Donc, le fait qu'elle consente à ce qu'il n'y ait pas de huis clos permet à l'ensemble des personnes qui souhaitent assister à ce procès et aux journalistes d'être présents. C'est essentiellement aussi pour cela qu'elle a finalement eu le courage de convoquer la société pour qu'on puisse suivre ce procès qui pose des questions essentielles, qui sont de deux ordres. D'une part, le viol conjugal. Qu'est-ce que le viol conjugal? Qu'est-ce que le consentement? Est-ce qu'on ne va pas finalement changer la définition du viol par rapport à cette notion, et puis aussi qui met en évidence cette problématique insidieuse de la soumission chimique. C'est un procès hors norme, et bien sûr, toutes les femmes et la société dans son ensemble remercient Gisèle Pellicot d'avoir pu laisser la possibilité à tout le monde de connaître la problématique de ce procès.
Vous nous parliez de la définition du viol. Il y a un argument qui a été mis en avant par l'un des avocats d'un des accusés, qui défend en fait plusieurs accusés d'ailleurs, et qui explique qu'en fait, il n'y a pas nécessairement de viol si la personne n'en a pas l'intention. On est d'accord que...
Alors,
est-ce que c'est ce que prévoit le droit ou non?
Oui, absolument. Il faut savoir, il faut souligner que le viol n'est caractérisé qu'à partir du moment où il y a la réunion de deux éléments. L'élément matériel, là-dessus, il n'y a pas de questionnement possible puisqu'il y a des vidéos qui démontrent la réalité des faits. Mais il y a également l'élément moral. Et là, je me place du côté des autres accusés. Je ne me place pas du côté de M. Pellicot qui, de toute façon, lui, a avoué les viols de sa femme. Mais s'agissant des autres 51 accusés, 51 autres hommes qui ont participé à ces viols, leur défense, leur stratégie de défense, c'est de dire qu'ils ne savaient pas, qu'il s'agissait finalement d'un jeu pour eux, d'un jeu libertin, et qu'ils ignoraient totalement que la victime n'était pas consentante. Donc, c'est là où ça pose... Et dans la loi, la question du viol... Je la rappelle, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, notamment bucogénitale, d'une personne sur autrui, fait avec violence, menace, contrainte et surprise. Donc, on n'a pas de notion de consentement. Donc, ça va être compliqué de savoir si véritablement ces hommes savaient ou pas que Gisèle Pellicot n'avait pas donné son consentement. Ils se réfère au consentement donné par le mari, comme si cette femme n'était qu'une poupée gonflable qui n'avait pas finalement à dire si elle était consentante ou pas. Après, dans les termes de la loi, on peut se référer tout de même aux deux notions qui sont la contrainte, puisque là, elle était sous contrainte chimique, on le rappelle, et puis aussi la notion de surprise qui s'entend au terme de la jurisprudence comme finalement des victimes qui étaient potentiellement endormies, inconscientes et qui ont été surprises par l'agression.
Donc, ce qui était le cas là, il y a donc 51 personnes qui sont jugées en plus de Dominique Pellicot qui ont violé cette femme, Gisèle Pellicot, alors qu'elle était inconsciente. Des hommes qui viennent de toutes les catégories sociales et professionnelles. Ça montre au grand public quelque chose que les chercheurs, les chercheuses, les militantes féministes et les victimes répètent depuis des années, c'est que les violeurs peuvent être monsieur tout le monde. Est-ce que ça peut changer quelque chose, selon vous, dans la prise en charge du viol en France ?
Oui, ça va faire évoluer les mentalités, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, on le rappelle, même si depuis MeToo, il y a eu une déferlante de dépôts de plaintes s'agissant des violences sexuelles et sexistes, il n'y a toujours que 1% de ces plaintes qui aboutissent à une condamnation. Là, je crois que l'exposition médiatique de ce procès va faire prendre conscience aux magistrats qu'il faut agir et agir vite, parce que ce procès démontre aussi cette forme de bestialité ordinaire, monstruosité ordinaire des viols, comme vous l'avez rappelé, de Monsieur Tout-le-Monde. Donc la nécessité à la fois de faire évoluer les procédures, mais encore aussi la nécessité de faire évoluer la loi et peut-être rappeler que la notion de consentement volontaire libre et éclairé doit aujourd'hui être intégrée dans la définition du viol.
Alors il nous reste très peu de temps, mais on en a parlé très rapidement. Ces viols, ils sont documentés, filmés, et pourtant le président de la Cour a prononcé une phrase qui avait beaucoup choqué la semaine dernière, disant qu'il allait être question plutôt de sexe que de viol. Pourquoi ?
Très sincèrement, je me pose également la question de sexe, parce qu'il a peut-être voulu écarter, parce qu'il est président d'une cour d'assises et donc il se doit d'instruire à charge et à décharge, il a peut-être nécessairement pas voulu prononcer le terme de viol, qui est déjà la caractérisation d'une infraction. Pour moi, ça se situe à ce niveau-là. Il a pris des précautions et des réserves. Cela étant, je trouve très très indélicat par rapport aux parties civiles et aux victimes d'avoir utilisé autant de délicatesse.
Merci beaucoup, maître Nathalie Tomasini, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes avocate spécialiste des cas de violence conjugale et de harcèlement.
RFI à Paris, 89 FM.
Un autre procès très important se tient en ce moment en France. Il a commencé ce matin, celui de Peter Sherif, djihadiste très influent dans les années 2000 et surtout accusé d'avoir joué un rôle central dans l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo en 2015. Avant de se pencher sur ce qui lui est reproché, Olivier Sherman, on va peut-être en dire un peu plus sur son parcours.
Oui, bonjour Anne. Peter Sherif, c'est un Parisien français de 42 ans. Il s'est converti à l'islam en 2003. Alors il est comme les frères Saïd et Sherif Kouachi, avec qui il a grandi dans le 19e arrondissement de Paris, une des figures de la filière terroriste dite des buts de Chaumont. Les frères Kouachi sont, je vous le rappelle, les auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo qui avait fait en 2015 12 morts et 11 blessés. Mais Peter Sherif n'a pas participé à cette tuerie, il était en 2015 au Yémen. Selon l'accusation, pendant son long séjour au Yémen, Peter Sherif était en contact avec les hauts responsables d'ACPA. Il a aussi participé aux activités militaires du groupe et il a aussi contribué à la fabrication d'engins explosifs improvisés et s'occupait de la recherche de cibles pour les attentats.
L'enjeu de ce procès, ce sera donc de démontrer si oui ou non Peter Sherif a joué un rôle dans l'organisation de la tuerie de Charlie Hebdo, de déterminer son implication réelle, son rôle auprès de Sherif Kouachi, donc l'un des deux tueurs du 7 janvier 2015.
Exactement, Anne. Peter Sherif est un cadre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, donc l'ACPA. Les juges d'instruction estiment qu'il a facilité l'intégration au sein d'ACPA d'un des frères Kouachi, très probablement Sherif, et qu'il avait connaissance de la mission de perpétrer un attentat en France. ACPA conseillait aux combattants étrangers arrivant au Yémen de retourner dans leur pays d'origine, commettre des attentats. Peter Sherif dit qu'il a bien rencontré l'un des frères Kouachi au Yémen, mais c'était par hasard. Très étonnant, cette rencontre fortuite dans un pays à cette époque complètement fermé. Il aurait joué un rôle d'intermédiaire donc entre Kouachi et les responsables d'Al-Qaïda au Yémen.
C'est donc, si l'on peut dire, un troisième procès des attentats de 2015 qui s'ouvre après celui de Charlie Hebdo et de la tuerie de l'hypercacher. Peter Sherif s'est déjà exprimé.
Tout au long de l'information judiciaire, Peter Sherif s'est borné à affirmer que Sherif Kouachi lui avait dit qu'il allait ressortir du Yémen pour un travail à l'extérieur sans précision. Il n'était pas au courant du projet de la tuerie de Charlie Hebdo. Je l'ai dit mille fois aux policiers, a-t-il déclaré lors d'un interrogatoire en juin 2021. Auparavant, 2020, entendu comme témoin en visioconférence depuis sa prison, car son instruction n'était pas terminée, après avoir récité un verset du Coran et fait des déclarations d'ordre religieux, il avait refusé de répondre aux questions de la cour. Dans leur ordonnance de renvoi, les juges d'instruction antiterroriste notent qu'il a depuis largement exercé son droit au silence lors de ses interrogatoires et n'a donné aucune information sur ACPA.
Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès ?
Eh bien, les parties civiles espèrent que Peter Sherif parle vraiment et s'explique sur son parcours. Comment peut-on partir des buts de Chaumont pour arriver à Al-Qaïda au Yémen ? Comment quitter Paris pour aller rejoindre la barbarie ? Voilà des réponses que souhaite avoir par exemple Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Après les deux premiers procès techniques, il y a eu tout le côté idéologique, le côté engagement, le côté motivation qui intéresse les parties civiles. Et pour ça, il va falloir que Peter Sherif s'explique et surtout qu'il décide de parler.
Merci Olivier Sherman. Les derniers étudiants encore en vacances retrouvent les salles de cours aujourd'hui et cette année encore. La rentrée universitaire a été marquée par une augmentation des frais pour les jeunes. 3150 euros pour un étudiant non boursier et ne vivant pas chez ses parents. C'est plus de 3,5% de plus que l'année dernière et ça pèse beaucoup sur le quotidien, comme l'a constaté notre reporter Aram Beng.
Avec le coût de la rentrée universitaire qui a encore augmenté, ces étudiants en deuxième année de licence en droit se disent obligés de travailler pour ne pas dépendre complètement de l'aide de leurs parents.
On travaille à côté.
Ouais. Sinon, c'est les parents qui aident, quoi.
Mais après, arrivé à un certain âge, on ne veut plus que nos parents nous aident. On aimerait bien avoir nos sous tout seul, du coup, on travaille et puis voilà.
Et quel est votre plus gros poste de dépense, par exemple ?
C'est la nourriture, hein. Ça coûte cher, ouais. On ne peut pas se faire plaisir sur d'autres points à cause de la bouffe.
Et le loyer ?
J'ai pas de loyer, moi je suis mes parents.
Moi pareil, on paye le loyer. Mais le plus dur, c'est la nourriture, parce que ça coûte cher, surtout les protéines.
Selon la Fédération des associations générales étudiantes, un étudiant sur cinq ne mange pas à sa faim, comme l'indique Sarah Biche, vice-présidente de la FAGE.
20% des étudiants ne mangent pas à leur faim, notamment après le paiement du logement. Et quand on a payé sa facture de logement, d'électricité, etc., il ne reste pas grand-chose pour arriver à se nourrir décemment. Et donc les étudiants, ils sautent en moyenne 3 repas par semaine. Comment on peut demander à ces étudiants de penser à leur partiel quand ils ne savent pas comment ils vont se nourrir ?
Lisa est en troisième année de licence en activité physique adaptée à la santé. Elle travaille pour régler son loyer et ses frais quotidiens.
J'ai la chance que c'est ma mère qui paye l'inscription à la fac, donc ça va. Et sinon, je travaille à côté pour avoir de l'argent pour vivre.
Vous vivez encore chez vos parents ou bien vous avez un logement ?
J'ai un logement.
Est-ce que c'est le plus gros poste de dépense pour vous ?
Le loyer ?
Ouais, le loyer. Je paye 700.
Du coup, moi, c'est Olivier. Je suis aussi en L3 à PASS, à la même filière que Lisa. Moi aussi, j'habite tout seul. Là, j'ai un appart, mais ça va, j'ai des aides et tout avec mes parents. Mais en général, en STAPS, la plus grosse source de dépense, c'est pour avoir du matériel sportif.
Et côté alimentation, parce qu'il y a des étudiants aussi qui ont du mal à se nourrir correctement et 2 étudiants sur 10 sautent des repas. Vous, est-ce que vous êtes face à ce problème parfois ?
Ça m'arrive de sauter des repas, oui. Sinon, les pâtes, c'est pas mal.
On n'a pas les restos, le plat à 1 euro pour tout le monde. En plus, comme on n'est pas boursier, on n'a pas accès non plus à ça. Mais sinon, le repas à 1 euro pour tous, ce serait déjà quelque chose de super, quoi.
Nazir Chakirou est un étudiant béninois en deuxième année de licence. S'il est bénéficiaire d'une exonération partielle pour les frais d'inscription, ce n'est pas facile du tout pour lui de faire face à tous ses besoins.
Surtout dans l'achat des matériels, ça, c'est pas facile. Donc, j'attends que mes papiers soient à jour pour pouvoir travailler en parallèle parce qu'on a vraiment besoin de ça pour pouvoir subvenir un peu à nos besoins.
En Île-de-France, le loyer constitue le principal poste de dépense des étudiants non boursiers, suivi de l'alimentation et de l'achat de matériel pédagogique.
Reportage signé Aram Beng. L'actualité française, c'est aussi cette rencontre en Nouvelle-Calédonie. Les acteurs économiques, le patronat, les syndicats réunis dans une commission pour reconstruire après les manifestations et les émeutes du mois de mai dernier. La Nouvelle-Calédonie, justement, c'est le cadre du nouveau roman d'Alice Zénitaire, Frapper l'épopée, dans lequel l'auteur poursuit son travail de fouille des mémoires coloniales. Elle en parle à Isabelle Chenu.
Bonjour Alice Zénitaire.
Bonjour.
Avec Frapper l'épopée, votre nouveau roman, vous nous embarquez en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui et hier. Et cet aujourd'hui est incarné par votre héroïne qui s'appelle Tass. Elle est de retour à Nouméa après des années en métropole et la fin d'une histoire d'amour. Elle est professeure de français.
Tass, c'est une jeune femme qui est un peu perdue quand le roman commence, puisque malgré cette certitude qu'elle a quand elle revient à Nouméa, qu'elle rentre à la maison, elle ne sait pas bien pourquoi ses ancêtres sont arrivés sur ce caillou lointain. Quelle est sa légitimité à dire « c'est chez moi » puisqu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle ne fait pas partie du peuple premier. Elle n'est pas Kanak.
Alors Alice Zénitaire, votre roman commence un peu comme un polar, un jeu de pistes à la rencontre de l'esprit des ancêtres, l'esprit des absents.
Oui, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué pendant mon premier voyage. Même les non-Kanaks que je rencontrais, qui vivaient sur le territoire, qui pour certains étaient nés sur le territoire, avaient adopté une partie des croyances Kanaks sur le fait qu'il existe des lieux tabous dans lesquels on ne peut pas marcher sans déranger les esprits des ancêtres. Alors il y a les sommets des montagnes, mais il y a aussi les trous d'eau. Et Tass, en effet, quand elle tombe dans un trou d'eau, elle va déclencher une sorte de féerie aquatique de la mémoire qui va lui présenter l'arrivée de son ancêtre, Areski, qui était un forçat algérien, kabyle, envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie dans les années 1860.
Vous faites ressurgir effectivement tous ces ex-bagnards libérés, mais enfermés dans cet archipel, qui sont eux-mêmes décolonisés et qui vont devoir se battre contre d'autres colonisés qui sont les Kanaks.
C'est le drame d'une colonisation de peuplement après la colonisation pénitentiaire qui va établir une hiérarchie des races, en fait, et qui va juger que les bagnards même venus d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie sont suffisamment blancs pour qu'on les préfère aux Kanaks. Et pour gagner un petit peu de pouvoir, de liberté, d'avantage, ce qu'on a appelé les Arabes de Calédoun, même quand eux avaient pu être arrêtés pour fait de rébellion envers l'autorité coloniale, vont se ranger aux côtés de cette autorité coloniale pour mater la grande révolte kanak de 1878 et ils vont jouer le jeu de cette hiérarchie des races en se disant « au moins, on n'est pas tout en bas ».
Alors votre héroïne, Tass, Alice Zénitaire, s'appelle en fait Tassadit. Et la révélation de ses origines, de cette part manquante qui ne lui a pas du tout été racontée, va lui permettre en fait d'appartenir d'une certaine manière à cette île.
À partir du moment où elle voit ce qu'a été le parcours d'Areski, il y a une certitude qui est qu'il fait partie de ce que Jean-Marie Tjibaou a appelé dans les années 80 les victimes de l'histoire. Et donc Jean-Marie Tjibaou, qui a été un leader indépendantiste remarquable, avait dit cette chose qui était que Kanaky était une terre d'accueil pour ces victimes de l'histoire. Que l'indépendance de Kanaky ne voulait pas dire l'archipel, il appartient uniquement aux Kanaks. Il ouvrait la place aux populations qui étaient arrivées contraintes et forcées. Et donc les bagnards, comme les Vietnamiens, les Indonésiens, qu'on appelait les engagés sous contrat, il y a eu des Japonais, de la main-d'œuvre qu'on a fait venir d'Inde, des nouvelles hébrides. Donc il y a eu énormément de gens qui ont été importés presque comme des marchandises humaines. Et leur descendance est une victime de l'histoire. Et tout à coup, Tass se dit, c'est ça que je suis en fait.
Je vous remercie. Frapper l'épopée, c'est disponible aux éditions Flammarion et c'est le roman de la rentrée d'Alice Zénitaire.
Alice Zénitaire, elle répondait à Isabelle Chenu. Merci d'être avec nous sur RFI. On se retrouve dans une minute pour l'actualité européenne. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois. Nija is a Kwenu Bang. I am Ibo and Hausa and Yoruba and many more. I am Nigeria. Kims.
Okay, eh, eh, bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets, genre le féfé. Je me fais un mieux s'applaudit tété. Donc,
je n'ai vu que toi, habibi.
RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI.
Vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Gilles est une jeune femme de 25 ans, entourée de deux M, Mathieu et Mathias, pour former un de ces triangles dont la littérature est coutumière. Triangle amoureux, triangle amical, les deux à la fois. Dans son deuxième roman, Shane Haddad révèle le malaise existentiel d'une génération.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet, du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.